Voilà, bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette invitation qui nous donne l'opportunité de vous restituer un projet qui est encore en cours puisque l'expo a démarré à Cortone mi-mars. Et donc on a décidé avec Laurent de vous faire une présentation à deux voix, un petit peu dans la ligne de ce qui a été fait ce matin. On est en transition entre deux thématiques, le partenariat qui, vous verrez, sera régulièrement évoqué de ces trois institutions autour de l'exposition sur l'écriture étrusque, et puis l'inscription de ce partenariat dans des territoires particuliers, celui qui se dessine autour du musée de Lattes, et puis la manière dont ce projet s'est inscrit dans celui du musée de Cortone, qui est un musée municipal en Toscane, donc au sud de Florence, à peu près une heure au sud de Florence. Donc une conférence à deux voix avec deux points de vue, le point de vue de l'ex-conservateur du musée de Lattes, en effet, donc musée territorial, de un petit peu pourquoi, comment on travaille avec des institutions, à la fois un musée d'État et une institution étrangère autour d'une thématique qui pourrait a priori sembler un petit peu étrangère à la Tara, mais vous verrez que c'est pas le cas. Et le point de vue de Laurent qui vous dira lui comment et pourquoi le Louvre travaille, quelle est sa politique territoriale, pourquoi le Louvre travaille en région avec des institutions et comment il le fait. Voilà. Donc voilà pour le programme dans des 20-25 prochaines minutes. Alors évidemment, et ça a été dit ce matin, et pour les élèves qui sont dans le séminaire d'exposition, ça a été dit aussi dans le séminaire d'introduction, l'aspect personnel, l'aventure humaine qui se joue derrière les projets d'exposition est extrêmement importante. Et je voulais aussi vous donner un retour un petit peu personnel sur la manière dont un projet de ce type-là peut se monter ou se monte. Et je pense que pour moi, il faut remonter à la formation de l'INP, le stage hors spécialité, donc en fin de formation, où je suis allé aux AGER, et c'est là que, même si on ne savait pas à ce moment-là évidemment qu'on allait un jour faire une exposition ensemble, que les premiers contacts se sont noués. À ce moment-là, j'étais déjà recruté à Lattes, donc je savais que j'allais aller travailler dans ce musée avec... Je vais pas rentrer trop dans les détails, mais cette histoire longue de 700 ans à peu près qui voit une installation étrusque d'abord sur le site, puis une présence grecque dans un substrat gaulois très 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 très, très présent, influence romaine, et puis un retour de l'importance de ce port au Moyen-Âge ensuite pour le site de Lattes. Donc dans ce contexte-là, on a eu quelques discussions, c'était à l'été 2009, sur de possibles collaborations un jour, et les choses ont commencé à se matérialiser une année après, donc à la fin de l'année 2010, où une petite délégation des AGER a fait la visite du musée de Lattes. On a regardé un petit peu quelles étaient les dernières découvertes sur le site, notamment les objets étrusques, puisque à ce moment, Laurent était arrivé. Le projet de l'expo sur Cerveteri était dans les tuyaux pour le Louvre-Lens, et qu'il y avait d'éventuelles discussions sur des emprunts d'importation cérétaine sur le littoral de France méridionale, et que éventuellement des objets de Lattes pourraient être empruntés pour l'exposition. Donc c'est avec ces thématiques-là de discussion d'emprunts possibles, d'un éventuel dépôt du Louvre dans le cadre d'un projet de rénovation sur lequel on avait commencé à réfléchir aussi dans ces années-là, qu'ont été répétés les souhaits réciproques de faire aussi peut-être une exposition ensemble sur une thématique qu'il fallait encore à ce moment-là élaborer et discuter, mais en utilisant ce lien qu'était la présence étrusque à Lattes avec des collections évidemment au Louvre, aux AGER. Voilà, donc là je passe la parole à Laurent. On va faire des allers-retours en fonction des différents thèmes.
Oui, à mon tour de vous dire finalement l'autre côté de cette collaboration. Effectivement, j'aurais pu reprendre à mon compte ce qu'a dit Lionel sur les rencontres entre 2009 et 2010, puisque moi je suis arrivé en 2009 au musée du Louvre en venant, je le dis avec effroi, mais je dois le dire, en venant de l'université. Et donc effectivement, c'est là que j'ai rencontré Lionel et avec Françoise Gauthier en particulier, qui est l'autre conservateur en charge des collections étrusques, qui depuis est devenu directeur du département. Du coup, nous avons réfléchi aussi à travailler dès 2010 sur des dépôts, à voir comment on pouvait collaborer avec Lattes, et cette idée-là, cette cette possibilité de collaboration s'est encore renforcée à partir du moment où voilà, le Louvre a mis l'accent encore plus sur la politique territoriale et sur le dialogue avec les musées, les différents musées français. Donc le souhait de travailler ensemble, comme vous le voyez, c'était lié aussi à notre propre projet de recherche. Donc il y a une opportunité, une fenêtre qui s'ouvrait pour nous, qui était la fenêtre, si je puis dire, la métaphore n'est pas très bonne, mais la fenêtre de l'écriture, puisque nous travaillions à ce moment-là à la publication du catalogue des inscriptions étrusques du musée. Donc on est en 2010-2011. Le catalogue est sorti en mars 2016, donc c'était voilà, un travail lent. Mais donc, d'ores et déjà, on pensait effectivement à cette possibilité de travailler sur l'écriture avec un projet à plusieurs volets, c'est-à-dire d'abord une actualité archéologique au musée du Louvre, donc quelque chose de plus réduit, une exposition dossier, comme on le fait au département, et de décliner ensuite peut-être avec LAT, justement, en tant que représentant éminent des Étrusques en France, puisque c'est un des grands sites étrusques, je ne cesse de le souligner, en particulier dans mes cours à l'école, mais les Étrusques, les antiquités étrusques font partie des antiquités nationales. Il suffit de songer à Aléria, par exemple, en Corse, où vous avez une vraie colonie étrusque, mais donc une présence étrusque également à Alat. Donc il y avait une logique à aller voir de ce côté-là, à ouvrir du côté de Alat une collaboration sur l'écriture étrusque. Et effectivement, c'est là qu'on a aussi essayer d'élargir cette collaboration et d'adjoindre le musée de Cortone, parce qu'on aime bien faire des expositions sur les Étrusques, mais on a cette triste tendance, enfin, qui moi me plaît beaucoup, mais peut-être un peu trop automatique, à vouloir les présenter aux Italiens, ces expositions sur les Étrusques, et à leur apprendre comment on peut parler des Étrusques à notre façon. Et donc on a tiré parti de notre collaboration passée avec le musée de Cortone, qui est là aussi une collaboration d'ailleurs qui date à peu près des mêmes années, vers les années 2010-2011, puisque nous avons fait une exposition consacrée aux Étrusques de la région de Cortone et du cours du Tibre en 2011. Et donc sur cette collaboration est né ce partenariat avec Cortone, et donc l'idée justement de rejoindre ces deux entités, LAT et Cortone, dans une collaboration tripartite.
Voilà, donc on a fait une première délégation, on peut dire ça comme ça, en fin 2012. Donc vous voyez que 2009, 2010, 2011, 2012, le temps passe, les projets sont quelque part de manière potentielle, mais qu'ils ne se concrétisent pas encore. Première réunion à la fin de l'année 2012. Moi, j'étais allé avec l'élu à la culture de l'agglomération de Montpellier, qui entre-temps est devenue une métropole. Donc, on est allé rencontrer l'adjoint au maire et le maire de Cortone pour faire une première discussion avec Laurent et Françoise Omesser, donc les trois partenaires, pour voir déjà du point de vue budgétaire, du point de vue du calendrier, si du point de vue des thématiques, si les choses les intéressaient, si on avait les capacités pour monter ça, sachant que à ce moment-là, le Louvre avait déjà abandonner l'idée de faire la petite expo d'actualité, je crois. En tout cas, c'était déjà moins prégnant dans le projet. Donc, il fallait que financièrement, LAT et Cortone soient en capacité de porter la totalité du projet avec un appui scientifique du Louvre et bien sûr des prêts. On reviendra sur la question des objets, des prêts, une bonne partie des prêts venant du musée du Louvre avec cette actualité sur la publication des inscriptions. Donc, fin 2012, on dit d'accord, mais ça restait très programmatique. À ce moment-là, on pensait pouvoir peut-être faire l'expo en 2014. Et puis, vous voyez qu'on se revoit en été 2014, l'expo n'est toujours pas faite, on a toujours envie de la faire. Et cette fois, c'est là que concrètement, on dit, bon, il faut qu'on vraiment trouve une date. Nous, on aurait le budget pour la faire en 2015, donc il faut qu'on inscrive ça au budget 2015. Et c'est vraiment en été 2014, dans une seconde réunion à Cortone, qui ensuite s'est suivie toute une série de réunions. En plus, il y a toute la question des déplacements qui ne sont pas forcément évidents en collectivité, hein. vous vivrez ça, mais de faire des missions à l'étranger, c'est toute une affaire aussi. Donc on a réussi à monter ça et depuis l'été 2014 à travailler sur un projet d'expo concret avec des financements et puis je reviendrai sur le détail des financements et puis un cadre administratif, convention en cours d'élaboration et une liste d'œuvres qui était à ce moment-là, qui commençait à se stabiliser. Alors avant d'aller sur les objets, je repasserai la parole à Laurent. Clairement pour nous, en tout cas du point de vue du musée de l'Atte, monter ce type d'exposition sans avoir d'équipe scientifique réellement, puisqu'on est un petit musée malgré tout, avec une équipe qui est, cela dit, aguerrie au projet d'expo temporaire, pour nous la première, l'importance de cette fédération de compétences autour du projet d'expo, elle est de pouvoir se reposer sur un commissariat scientifique qui est composé de spécialistes, parce que l'écriture étrusque c'est particulièrement compliqué. Donc du côté italien et du côté du Louvre, on s'assurait la publication d'un catalogue et puis de création de contenu qui soit de qualité et qui puisse porter le projet d'exposition. Et comme vous l'avez compris, la thématique, elle est venue du Louvre. Nous, on avait ce souhait de faire quelque chose, mais c'est vraiment du côté du Louvre que la proposition est venue de partir sur l'écriture, qui était un thème tout à fait fédérateur.
Donc sur la sélection d'objets, même chose, c'est vraiment un projet à double ou triple détente, puisqu'on a évidemment défini d'abord le calibre de l'exposition en fonction des possibilités financières, économiques de chacun, en termes d'espace aussi. Donc c'est une exposition de taille petite, moyenne, une centaine de pièces, 80, 80-100, ça dépend si on compte les ensembles.
Les fragments.
Ouais, les ont plus.
La table de Cortone, c'est soit 6 fragments ou une pièce, c'est
d'accord,
ça.
D'accord, ok. tu m'as fait perdre le fil.
Mais
je vais le retrouver.
Double ou triple détente. Avec
double, ouais, mais... Donc double ou triple détente, puisqu'il a retenu cette belle image. D'abord, évidemment, des prêts du Louvre, ça va de soi, donc ce qu'on pouvait prêter. Également des prêts de Cortone et la Toscane, et là, c'est sûr que le fait que le musée du Louvre s'implique, et en particulier que nous ayons signé, même si l'organisation va revenir là-dessus, en particulier toutes les charges économiques ont reposé sur Latte et sur Cortone, les demandes de prêts, l'organisation formelle était tripartite. Donc les demandes de prêts ont été signées par les trois institutions. Mais c'est sûr que voilà, donc ça servait d'appuyer des demandes si vous aviez la signature du Louvre, en particulier pour la surintendance de Toscane, avec tous les rapports qu'on a déjà pu tisser avec nos collègues florentins, mais également avec la Villa Giulia, avec les musées capitolins, etc. Également avec la BN, d'ailleurs. N'oublions pas que le cabinet des médailles était présent aussi dans cette exposition. Dans le sud de la France, c'est là aussi, je crois, vraiment l'intérêt, et je rejoins vraiment la thématique du territoire et de ces réseaux qui peuvent se créer. C'est clair que là aussi, nous, on a pu intervenir, mais la connaissance, finalement, puisqu'il y a des objets qui sont venus de Marseille, de Béziers, de Narbonne, la connaissance qu'avait Lionel et son équipe des autres équipes des musées avoisinant a facilité considérablement les choses. Donc en particulier les recherches, je ne sais pas si je dois le dire, mais les recherches de Tesson qui avaient disparu dans certains dépôts, ou simplement l'obtention de certaines pièces un petit peu pour lesquelles les responsables étaient un petit peu hésitants, ça a été grandement facilité. Donc de pouvoir jouer sur ces deux niveaux, ça a été quelque chose de tout à fait positif, qui a permis vraiment d'aplanir un peu la préparation. La même chose vaut pour la Croatie, puisque là aussi on avait eu des contacts avec le musée de Zagreb, mais le fait que Lionel ait organisé en 2014 une exposition avec le musée de Zagreb, qu'ils connaissent déjà les collègues de Zagreb. Là aussi, évidemment, ça a été décisif dans l'obtention de ce chef-d'œuvre qu'est La momie de Zagreb, ce long texte, ce livre de lin étrusque, qui est vraiment le clou de l'exposition.
Oui, il faut dire que... Et cette collaboration a permis aussi, dans une phase difficile en Italie, de changement de loi où les musées ne savaient plus qui allait signer les autorisations de sortie du territoire des objets. Si on n'avait pas eu un partenaire italien là, qui a beaucoup fait pour mettre un peu d'huile dans les rouages et faire activer les formalités administratives, ça aurait été, je pense, à peu près impossible de gérer une exposition de ce type-là depuis Latte. Peut-être pour le Louvre, c'est un petit peu différent depuis Paris, mais en tout cas, pour nous, ça aurait été extrêmement compliqué. Donc, ces trois groupes de prêts là se sont finalement révélés très complémentaires pour créer l'exposition. À nous tout seuls, on aurait pu en avoir quelques-uns, mais on n'aurait jamais fait une exposition de cette nature-là et de ce calibre-là. Voilà. Alors évidemment, ensuite, la complémentarité, elle joue aussi dans les aspects financiers. Une expo à deux partenaires qui est à deux étapes, on va dire, trois partenaires, mais deux étapes qui est prévue en amont. On sait que le marché de transport, on le lance avec une étape intermédiaire qui coûte beaucoup moins cher que s'il fallait faire rentrer les objets chez eux et puis les faire revenir. Donc c'est à peu près... C'est pas la moitié du coût du transport en moins, mais ça coûte une fois et demie au lieu de coûter deux fois, on va dire. Donc on a un transport aller qui est à la charge du premier emprunteur, en l'occurrence c'était Latte. Ensuite, un transport intermédiaire où en général on arrive à faire un camion avec la totalité des œuvres qui partent dans le musée de la deuxième étape. Et ensuite, c'est le deuxième musée qui paie le retour des pièces. En l'occurrence, pour Corton, ça va être un petit peu moins cher puisque beaucoup de pièces sont déjà revenues en Italie. Beaucoup de pièces vont rester en Toscane, vont pas aller trop loin depuis Corton. Donc ça, c'est un élément important. Et pour nous, à Latte, le transport, c'est en général à peu près 30% du coût d'une exposition. Donc c'est ce qui coûte le plus cher dans l'exposition, c'est le transport. Si vous voulez faire une expo avec des pièces intéressantes qui viennent d'un peu loin. Et donc là, vous voyez que ça a un impact très très direct sur le plan de financement de l'exposition. On a aussi une complémentarité dans les équipes entre Latte et Corton. Alors le Louvre, on l'a dit, a fait vraiment le travail scientifique et beaucoup de travail sur le catalogue, notamment la rédaction du catalogue, le suivi des textes du catalogue. Du côté de Latte, on a une petite équipe, mais qui est quand même plus fournie que Corton, qui a l'habitude depuis quelques années de monter des expos, notamment des expos itinérantes. Donc c'était une des conditions pour faire cette exposition, c'était qu'on prenne en charge les groupements, donc des marchés de transport et du catalogue, qui sont les coûts partagés les plus importants, et qu'on laisse ensuite chacun faire son marché de scénographie et d'aménagement avec son scénographe, son équipe habituelle, en partie qui peuvent être en régie aussi quand on les a. Voilà, donc on a, si vous voulez, assuré le suivi et l'administratif du montage de cette exposition. C'était dans les toutes premières discussions une des conditions qu'avait d'une certaine manière posé Corton en disant « Ok, mais il faut que quelqu'un nous aide à porter les marchés et puisse suivre le catalogue. » Il se trouve que finalement, à la fin, c'est Latte qui a payé tout le catalogue. Je vous dirai un petit mot rapidement. Je vais le dire maintenant puisqu'on arrive sur cette phase de structuration du contrat ou de la convention de coproduction. Là, vous avez le préambule du texte qui fait ensuite 3-4 pages avec qui précise les devoirs et les attentes de chaque partenaire, à la fois financièrement mais aussi en termes de communication, d'implication scientifique. Et donc ce catalogue, finalement, dans la mesure où nous, on avait de toute façon un budget d'environ 20 000 euros par année pour faire des catalogues d'exposition. On a réussi dans le marché, pour cette somme-là, avoir deux livres en un, en fait, un catalogue en français, un catalogue en italien, à la condition que les deux soient imprimés en même temps. Alors ça a été compliqué, du coup on n'a pas pu avoir le catalogue en français le jour du vernissage, mais pour le même prix que un livre habituellement, on a réussi à avoir deux livres et donc sont sortis en même temps le catalogue en français et en italien dans le courant du mois de décembre, alors que l'expo avait commencé mi-octobre. Mais enfin, comme le livre est aussi pensé pour rester après l'exposition, ça permet d'avoir un ouvrage de référence sur la question de l'écriture qui marque aussi l'organisation de cette exposition. Donc le transport, on a réussi aussi à avoir un marché relativement raisonnable, si les chiffres vous intéressent, à peu près un peu plus de 80 000 euros. Et puis ensuite, comme je vous le disais, chaque partenaire a mis ce qu'il pouvait mettre ou ce qu'il mettait d'habitude dans la mise en place de l'exposition. Et là, d'une certaine manière, le Louvre, et je vais repasser la parole à Laurent, le Louvre a assuré une homogénéité entre les deux expos, puisque ensuite, chacun ayant ses contraintes, que ce soit Corton ou que ce soit Latte, en termes de salle, en termes d'administration, collections au-dessus d'eux, au-dessus de nous, de parcours dans le musée. On voulait quand même que l'expo soit la plus similaire possible, la plus en phase avec ce qui était dit et présent dans le catalogue. Et donc le travail du Louvre a aussi été d'assurer qu'on ait le même niveau, on va dire, de proposition et de présentation dans les deux musées à partir du projet qui avait été élaboré. Voilà. Donc vous avez vu quelques photos du montage à Lattes et là vous avez quelques photos à Cortone.
Oui, donc simplement, comme l'a dit Lionel, effectivement on tenait aussi à avoir vraiment deux fois la même exposition. Il y a quelques pièces qui ne sont pas les mêmes dans les deux expositions, dans les deux étapes, pour des raisons parfois assez bêtes, assez contingentes, comme ça arrive parfois. Voilà, une pièce qui était engagée pour la première étape dans une autre exposition qui n'a pu venir qu'à la deuxième, inversement une pièce qui n'a pas pu partir à la seconde étape. Voilà. Donc à part ces quelques petits points mineurs, c'est vrai que c'est le même parcours, c'est la même liste d'œuvres, c'est le même catalogue, français-italien, puisqu'il y a des auteurs français-italiens dans le catalogue. La grande différence tient aux espaces, évidemment, puisque, comme vous le voyez ici, autant Lattes a son espace sur deux niveaux avec des vitrines relativement modulables. On a suivi vraiment un parcours très, très cohérent du point de vue spatial. Autant Cortone, l'exposition a eu lieu dans la grande salle historique de l'Académie étrusque de Cortone, qui a une longue histoire prestigieuse, notamment pour l'histoire de l'étruscologie, donc ce qui en fait aussi un partenaire important pour nous, mais donc qui occupe tout l'espace central, ces vitrines placées au centre de la salle. Et donc là, le dispositif est surtout graphique pour orienter le visiteur de manière assez naturelle, pour le permettre de suivre le parcours, avec des choix aussi relativement différents en termes de cartels et de regroupement de vitrines, avec des contraintes également qui n'étaient pas celles de Lattes. Je pense en particulier à la présence à Cortone de certaines, enfin, ou à l'absence plutôt, de vitrines climatisées. Il y avait un certain nombre de vitrines qui étaient climatisées, d'autres pas. On a beaucoup de bronze, on a beaucoup de matériaux qui nécessitaient des vitrines climatisées, donc des regroupements d'objets qui n'étaient pas, enfin, pour lesquels a pesé cette contrainte. Également des choix graphiques, et puis aussi, il faut bien le dire, des habitudes locales. Donc ça aussi, c'était intéressant à observer, justement, en étant un peu neutre entre les deux, de voir quels étaient les choix et les habitudes, finalement, à Lattes, quels étaient les choix et les habitudes à Cortone, et puis d'essayer de faire un peu une via di mezzo, une espèce de compromis parfois sur certains choix ou certains desiderata d'une partie du commissariat. Je crois que j'ai tout dit.
Voilà, vous avez la momie, donc la fameuse momie de Zagreb. En bas, on ne se rend pas très bien compte de l'échelle. Hein. Le cadre fait presque 5 mètres de large. Hein. Donc c'est, en termes de conditions climatiques, c'est assez compliqué aussi. Donc voilà, cette pièce qui vient de Zagreb. Je crois qu'on a terminé. Merci.